Et France 24 présente
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Ensemble, nous recevons Christian Estrosi, maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors hier, le président Emmanuel Macron rendait hommage aux 13 soldats tués au Mali dans un accident d'hélicoptère. Aujourd'hui, le président est à Londres pour célébrer les 70 ans de l'OTAN. La semaine dernière, devant le patron de l'institution militaire, le président a déclaré vouloir une plus grande implication des alliés au Sahel. Il a dit cet après-midi, l'OTAN doit s'entendre sur une définition clair de la lutte contre le terrorisme, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors le chef de l'État peut-il, d'après vous, être entendu et est-ce qu'il a raison ?
Bien sûr qu'il a raison. D'abord, la vraie question à se poser, c'est à quelle menace l'OTAN est-il destiné à faire face ? Moi, je ne le sais plus. Ouais. On a du mal à l'identifier. Et donc... Lorsque l'on réfléchit,
donc il faut une révision stratégique.
Et lorsque l'on réfléchit à la principale menace à laquelle nous pouvons être confrontés, je dirais dans le monde libre en général et plus particulièrement au sein de l'Union européenne, en tant que maire de Nice qui a connu un 14 juillet, 86 morts, 450 blessés, l'État islamique, Daesh, on sait que c'est le terrorisme. Est-ce que la vocation de l'OTAN qui a été constituée pour faire face à l'URSS et aux menaces de l'URSS, aujourd'hui, est structuré pour répondre à cette menace-là. Et lorsque le président de la République alerte sur ce problème, je ne peux pas le contredire. Je partage totalement cette pensée. Et au fond, ce n'est pas si politiquement incorrect que ça que de dire à ses alliés, réfléchissons ensemble, redéfinissons les missions.
L'expression de l'état de mort cérébrale qu'il a employé, qui a passablement irrité Donald Trump, on l'a entendu aujourd'hui, qui a dit que c'était insultant, qu'on ne pouvait pas parler comme ça de l'OTAN. Cette expression-là, vous pensez qu'il a bien fait de l'utiliser ?
Oh, on sait que Donald Trump est assez éruptif, qui plus est, Donald Trump est en campagne électorale aux États-Unis, donc tout ça fait partie sans doute d'un débat politique interne aux États-Unis. Il n'en demeure pas moins que le débat est ouvert, qu'à l'occasion de ses 70 ans, c'est important qu'il ait une suite et que nous soyons aussi capables de nous mettre autour de la table avec nos partenaires européens d'abord pour définir quels pourraient être les contours enfin d'une vraie défense européenne.
Nicolas Sarkozy avait aussi un discours parfois un peu cash. Quand Emmanuel Macron dit que l'OTAN est en mort cérébrale, certains disent qu'il a raison sur le fond, mais qu'il a tort sur la forme.
Vous savez, c'est un commentateur qui disait aujourd'hui, et au fond je trouve que c'est pas mal comme référence, c'est la première puissance mondiale, les États-Unis, et d'un autre côté, la cinquième puissance mondiale, la France, qui sont confrontés à un débat et à un désaccord. Bon, faire entendre notre voix de temps en temps, sans courber les chines et sans nous incliner en permanence, c'est aussi un moyen de se faire respecter. On sait très bien que dans le monde diplomatique, soit on prend des contours, et puis on est toujours perdant l'arrivée, et on dit rien, soit il y a un moment incontournable, on dit écoutez, maintenant, on va parler cash, parce que les choses n'avancent plus, on fait du surplace, nous, on a 13 militaires français qui sont tombés dans l'opération Barkhane, c'est, je pense, le plus gros drame pour l'armée française depuis 1980, nous sommes bien seuls à nous battre au Sahel et ailleurs. Et donc, il y a un moment où il faut vraiment que les missions soient redéfinies et que nous ne soyons pas seuls dans ce type de mission.
Cette fermeté dans le langage, cette expression, donc mort cérébrale, est-ce que Emmanuel Macron n'aurait pas dû plutôt l'utiliser pour taper du poing sur la table, élever la voix et exiger une plus grande implication des alliés de l'OTAN dans la lutte contre le djihadisme au Sahel ?
D'abord, il le demande.
Oui, mais peut-être pas avec la même fermeté qu'il l'a eu pour dénoncer l'état de mort cérébrale de l'OTAN.
Il y a un rendez-vous, il parle de l'OTAN. Peut-être d'autres auraient utilisé un autre langage, mais en tout cas, si on veut éveiller les consciences...
Il faut frapper les esprits.
C'est un moment où il faut frapper les esprits. Moi, je ne vais pas reprocher au président de la République... là où d'autres se livrent à ce petit exercice, d'avoir utilisé ce type de langage. On connaît Nicolas Sarkozy, et vous savez les liens que j'ai eus et que j'entretiens encore avec lui aujourd'hui, qui lui-même a eu des moments où il a été très ferme, rappelez-vous, lorsque, y compris Vladimir Poutine, menacé de faire couler un torrent de sang, un bain de sang en Géorgie, et que Nicolas Sarkozy, en situation d'être président de l'Union européenne, est allé à Moscou avant d'aller en Géorgie pour dire à Poutine très fermement que l'Union européenne n'accepterait pas cela. Et on avait dit à l'époque, c'est un risque important, oser aller dire les choses aussi fermement. Et puis voilà, on s'est parlé. Il n'y a pas eu de bain de sang en Géorgie et nous avons été respectés. Et de temps en temps, je pense que faire respecter la France, je préférerais que ce soit l'Union européenne. Je préférerais qu'il y ait un axe fort franco-allemand. Et je préférerais aussi que l'ensemble de l'Union européenne participe financièrement plus lourdement au financement de l'OTAN, parce que la réalité, c'est malgré tout que les États-Unis apportent une contribution extrêmement forte à l'OTAN, ce qui autorise forcément M. Trump à dire un certain nombre de choses.
Oui, à dire qu'il porte seul le fardeau. Avant de passer aux retraites, une dernière chose sur le président américain qui veut taxer, comme vous le savez, les produits français, le vin, le fromage, le champagne. Une riposte donc à la taxe des GAFA. On est là peut-être plus dans la politique que dans l'économie. Est-ce que, c'est une forme de bras de fer bien évidemment, est-ce que l'Europe sera-t-elle à la hauteur pour soutenir la France qui a pris dans le fond cette initiative unilatérale de taxer les GAFA, mais il n'y a pas de fiscalité mondiale. D'abord, un, est-ce que c'était une erreur? Et de deux, est-ce qu'on peut compter sur cette fiscalité mondiale qui a du mal à se mettre en place?
Tout ça illustre la faiblesse de l'Europe, entre nous soit dit. On en parlait pour l'OTAN, j'en parle volontiers pour les GAFA. Mais sur ce sujet, d'abord, j'ai un peu observé ce qui se passait aujourd'hui dans la réaction de M. Trump, puisque vous avez sans doute vu comme moi que c'était un conseiller sur les affaires commerciales de M. Trump qui a proposé cette menace à l'égard de la France. Et que j'ai plutôt vu un Trump qui faisait un peu de rétro-pédalage sur le sujet. Dis à M. Trump très volontiers, avant de dénoncer le fait que nous voulons taxer les GAFA, ce qui me paraît légitime...
Oui, mais tout seul.
Écoutez, il y a un moment...
Non, mais il faut commencer, vous verrez.
Que M. Trump, d'abord, commence à regarder... ce que font les GAFA. Et lorsque je vois qu'Amazon commercialise pour les sapins de Noël des objets qui font référence à la Shoah, Auschwitz, au train de la mort, etc., que M. Trump, avant tout, regarde ce que commercialisent les GAFA. Parce que dire « je vais... » taxer ce que la France construit de plus vertueux en Made in France, dans la mode et le luxe, et dans nos meilleurs savoir-faire pour apporter une confrontation et une contrepartie à notre volonté de taxer les GAFA pour protéger nos savoir-faire. D'abord, à quoi servent les GAFA? Que font-ils et qu'ont-ils encore de vertueux? Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait aussi un contrôle de la part de M. Trump avant de donner des coups de menton et de menacer sur ce sujet.
Si l'Europe et les États-Unis entraient dans cette espèce de guerre commerciale, vous pensez que ça aurait des conséquences lourdes, que ce serait mauvais pour la croissance, par exemple?
Vous savez, à force de se laisser marcher dessus, là aussi, si l'Europe comprenait que le fabriquer en Europe, pour moi qui, en tant que ministre de l'Industrie, ait été un peu... celui qui a porté l'idée du fabriquer en France en créant les comités de filière et les bonnes relations donneurs d'ordre sous-traitants pour défendre le fabriquer en France, si l'Europe comprenait que sur la fiscalité, sur l'environnement, sur le social, nous devions en passer enfin par une équité à nos frontières pour défendre nos productions, eh bien, je pense que nous serions plus en mesure de livrer un certain nombre de guerres commerciales si on nous les impose.
Alors Christian Estrosi, dans deux jours, la France sera à l'arrêt, donc jeudi, avec le mouvement de grève. 90% du trafic SNCF sera annulé, 70% des profs en grève. Beaucoup comparent le mouvement avec celui de 95. Est-on, à votre avis, dans un scénario catastrophe, ou est-ce qu'on crie avant d'avoir mal? Il est clair qu'aujourd'hui, jeudi, ce sera une journée off, on va dire. Il se passera, tout sera bloqué, mais... Ce qui compte, dans le fond, c'est le lundi, le mardi, le mercredi. Est-ce que cette grève peut s'installer ?
Oui, vous avez totalement raison. Bon, jeudi, on sait que ce sera des blocages extrêmement lourds et pénibles pour le fonctionnement de notre pays. Mais ce qui compte, c'est ce qui va se passer après. Et bien sûr, nous avons à redouter et qu'il y ait des reconductions sur plusieurs journées au cours du mois de décembre. Le mois de décembre, c'est un mois important. Déjà, l'année dernière, avec le mouvement Gilets jaunes, l'économie du commerce était en berne. Est-ce que nous pouvons nous permettre cela pour le commerce, pour l'économie, pour la veille des fêtes de Noël? Moi, je ne le pense pas. La France est en panne sur un certain nombre de réformes dont nous avons besoin. Et quand je pense qu'on fait une sorte de grève préventive sur le contenu de textes qu'on ne connaît pas, je ne trouve pas que ce soit forcément la bonne méthode. Alors, qu'on signifie son inquiétude par une journée de grève, c'est une chose. Pour le reste, je pense que le gouvernement, pour le moins, et pour le mieux, le président, devrait d'ailleurs dire les choses de manière un peu plus précise pour que le débat s'instaure, que le dialogue social puisse s'instaurer.
Parce qu'elle elle doit être faite, cette réforme, parce que Marine Le Pen dit qu'il n'y a pas besoin de la réforme, de réformer les retraites.
D'abord, elle n'est pas la seule à le dire, d'ailleurs. D'autres à gauche le disent aussi.
Non, mais attendez. Il y a eu une première période de la gouvernance Macron où nous avons eu des réformes que la droite proposait elle-même. Je pense au Code du travail, je pense à l'ouverture à la concurrence de la SNCF et à d'autres sujets qui ont été des avancées. Et puis le mouvement de l'automne dernier a mis les réformes en berne, y compris sur la décentralisation. Nous avions pourtant de belles promesses. Aujourd'hui, tous ces dossiers sont en train d'être réouverts. Et la France a pris du retard sur ces réformes structurelles. Les retraites, on sait qu'on va dans le mur d'ici 2025 si on ne prend pas les mesures nécessaires. Donc, oui, la réforme est nécessaire. De toute façon, Marine Le Pen...
Il y a plusieurs manières de la faire aussi.
...vous expliquera toujours, elle qui n'a jamais rien dirigé, rien gouverné, que il faut surtout
mais
rien faire.
Christian Estrosi, est-ce que vous avez une explication sur l'incroyable difficulté qu'il y a à réformer en France ?
Je crois que, de manière successive, les gouvernements n'ont pas su restructurer la représentation salariale comme on aurait dû le faire, que ce soit à la droite, que ce soit à la gauche. Moi, je vois ce qui se passe en Allemagne, où tous les salariés participent, où tous les salariés sont représentés. Aujourd'hui, on sait que la représentation syndicale ne représente qu'une minorité de salariés. Il y a une obligation en Allemagne qui fait que le monde syndical participe à quasi-égalité avec le patronat et aux côtés...
Et que l'État n'est pas celui qui joue les jeux du
gouvernement central aux réformes structurelles. Voilà pourquoi l'Allemagne, sur les réformes structurelles, a aujourd'hui une avance considérable sur nous. Il y a une étude, vous le dire, qui démontre que l'Allemagne a gagné je ne sais combien d'euros par habitant depuis le passage du mark
à l'euro,
et que la France a perdu je ne sais combien d'euros par habitant depuis le passage du franc à l'euro. Simplement parce que la France n'a pas fait au même rythme que l'Allemagne les réformes structurelles
peut-être
nécessaires.
Peut-être aussi parce que l'euro a été à l'époque fixé sur une parité qui avantageait l'économie allemande.
Non.
C'était un nouveau mark pour l'Allemagne.
Ça peut être votre analyse.
Ça n'est pas que la mienne, loin s'en faut.
Mais en tout cas, ça n'est pas la mienne.
Oui, ça je l'entends bien.
Et si je compare les réformes structurelles pour moderniser l'administration, le monde de l'entreprise, le monde du travail, les réformes sociales, les réformes économiques, la compétitivité, le financement de l'innovation en Allemagne. Et lorsque je regarde le modèle français, nous voyons que nous avons un retard important à rattraper.
Le retard n'est-il pas dû aussi à un problème franco-français qui est que, dans le fond, tous les gouvernements ont refilé la patate chaude de la réforme à leurs successeurs? C'est-à-dire que depuis des années, on cale devant les réformes parce que c'est un pays qui veut des réformes soi-disant avec leur tête mais jamais avec leur tripes, et les présidents ou les gouvernants reculent.
En tout cas, les 5 ans de socialisme nous auront fait beaucoup de mal. Nous avons réussi avec...
En 95, ça a calé quand même. Chirac a calé.
En 95, ça a calé, mais il n'en demeure pas moins que... ce soit ensuite le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin avec une deuxième loi de décentralisation après la loi de décentralisation de Gaston Defferre, en vous rappelant malgré tout que les collectivités, c'est 70% de part de commande publique dans notre pays et que décentraliser des compétences, ça contribue aussi à la croissance, à l'emploi et au financement de la compétitivité et d'innovation. Qu'ensuite, Nicolas Sarkozy... a dû faire face entre 2008 et 2010 à la plus grave crise majeure qu'a connue toute la planète au cours du siècle écoulé. Nous l'avons surmontée, nous y avons fait face, nous avons sauvé les fleurons de l'industrie française qui pourtant était en grande difficulté. Nous avons sauvé l'automobile, l'industrie automobile française. Nous avons bâti des pôles de compétitivité. Et puis nous sommes arrivés en 2012, avec la panne sèche, retour en arrière, retour aux 35 heures fermes, suppression des heures supplémentaires.
Mais oui. Non, mais il nous reste une minute et je voudrais absolument qu'on évoque ce qu'a dit Jean-Paul Delevoye, qui dit que compte tenu du déficit de la natalité en Europe, dans le cadre de la réforme des retraites, hein, il s'exprimait, il va falloir faire venir, a-t-il dit, 50 millions d'immigrés en Europe d'ici à 2050. Qu'est-ce que vous en inspirez ces propos?
Je pense qu'il s'en est excusé dans la soirée.
Il a dit qu'on l'avait mal compris. La fameuse formule, ça a été sorti de son contexte. Mais bon,
en tout cas, je trouve très sincèrement que c'est très maladroit. Les retraites, c'est pas en faisant venir de l'immigration qu'on réglera le problème. C'est en résorbant le chômage. Voilà. Et aujourd'hui, le chômage, on peut le résoudre par l'innovation. Par la recherche et le développement, par la croissance autour du numérique et des nouvelles économies, et notamment l'économie verte, parce que je crois que l'écologie est aujourd'hui le principal partenaire du développement en matière d'économie.
Merci. Voilà, c'est terminé.
Merci beaucoup et merci à Charlotte Orient-Thomaca d'avoir préparé cette émission et merci à toute l'équipe technique pour l'avoir réalisée. À très vite. Merci.
Sept milliards de